de la belle visite. On l'a reçu il n'y a pas longtemps. C'est Gesso, David Tremblay. Salut.
Je m'en viens régulier de la
place. Ben oui. Ça risque de se ressembler un peu. C'est le même disque.
Sorel, mon nouveau patron.
David, premier album.
Oui.
Pour tes 40 ans.
Pour mes 40 ans.
Il y a un peu de ça. À travers de ça. De l'espèce d'urgence de si je le fais pas là, à un moment donné, je le ferai pas jamais.
C'est ça. Puis tranquillement, on vieillit, donc la motivation elle vient de moins en moins là. Donc je vais en profiter pendant que j'avais ce gros coup de motivation. La motivation de prendre. Puis c'est surtout que j'ai eu un petit coup de pied au derrière là, d'un de mes amis qui m'a fait bondir sur l'occasion.
Quand on parle de Michael Grégoire. Quand il t'a appelé.
Oui.
Est-ce que tu étais là dans ta tête? Étais-tu déjà dans un mode de « Hey, il faudrait bien que je refasse quelque chose? » Ok.
Aucunement. J'étais complètement ailleurs. Ouais. Ben, c'était la pandémie. Et puis, ouais. Mon Dieu, je pense que je m'affairais à essayer de me trouver une nouvelle vocation parce que je venais de perdre mon emploi qui semblait me dicter ma voie pour les prochaines années. Puis finalement, voilà, pandémie s'est faite et puis la fermeture du club, le fameux...
Le 281?
Oui, moi j'étais animateur là-bas. Donc, c'est ça. Donc, j'ai animé pendant un an et demi jusqu'à la fermeture. Et puis quand ils ont décidé de mettre la clé sur la porte, c'est ça. Ça m'a comme un peu déstabilisé parce que je trouvais que c'était une job qui était un peu unique et je pouvais me définir à travers ça. Les gens me demandaient qu'est-ce que je faisais dans la vie. Je disais, je suis l'animateur du 281 et c'était installé. Tu vois ce que je veux dire?
Oui,
quelque chose de... Donc, c'est ça. Fait que j'ai été longtemps à dire, ah, moi, je suis l'ancien animateur. Puis pourtant, en tout cas, tu vois.
Oui, oui.
Puis finalement, mais c'est ça. Non, j'avais mis la musique de côté un petit peu là, parce que justement, les hauts et les bas, les aléas de la vie de musicien.
Donc, quand il appelle.
Oui.
Est-ce que ça allume tout de suite quelque chose ou ça demande un temps de réflexion?
Ça demande un temps de réflexion parce que je me demandais c'était quoi ses intentions réelles. Moi, je connaissais pas ça en fait la musique. Puis lui, il me demandait de produire ma chanson. Puis là, je me disais, est-ce que je veux laisser ma chanson entre les mains de quelqu'un d'autre? Est-ce que là, quel rapport, quelle emprise je vais avoir un peu sur ma musique? Fait que ouais, j'ai pris un petit temps de réflexion. Mais ça me travaillait trop là, à l'intérieur de pouvoir mettre ça en onde puis de pouvoir mettre ça au grand jour.
Est-ce qu'il y avait du matériel en banque ou c'est à partir de là que non. Le matériel est arrivé?
J'avais cette chanson-là, « Minou moins quart », et puis j'avais la chanson que j'avais déjà écrite pour mon garçon qui figure sur l'album qui s'appelle « Si jamais ». Donc j'avais ces deux chansons-là seulement et puis j'en ai écrit une dizaine d'autres. On a sélectionné 9 au total.
Est-ce que c'était clair que si jamais elle allait être sur l'album, on en a parlé à Studio 101, je sais que c'est un sujet qui te rend bien émotif. Est-ce que c'était clair, même si le temps a passé, même si l'histoire a évolué, que tu allais la mettre dessus?
Tu parles de laquelle?
Celle pour ton enfant.
Celle pour mon garçon, ouais. Si jamais. C'était clair que si je sortais quelque chose, je voulais mettre cette chanson-là sur l'album parce que ça...
Pour que ça reste?
Pour que ça reste, parce que ça représente un bon côté. Puis un côté que je veux pas oublier surtout de cette histoire-là, finalement.
Et au moment où tu dis oui, que tu vas entrer produire cette chanson-là, ça ramène ce rêve-là en tête?
Ben oui.
Tu dis, et si ça se pouvait?
Écoute, on commence par une, et puis on a sorti ça, le premier single, on l'a sorti en avril. Et puis on se rend compte en mai-juin que les réactions sont bonnes, que ça rentre à énergie, que ça rentre un peu dans les radios, etc. Et là c'est là que ça m'a frappé, là, l'engouement vraiment. Vu que j'avais recommencé à enregistrer en studio, j'avais recommencé à écrire un petit peu. Fait que là, tu sais, mai-juin, j'ai appelé Maxime Siméon, qui est mon réalisateur des 4 premières chansons. Et puis, j'ai dit, OK, faut qu'on enregistre d'autres, là. J'ai des nouvelles idées, je veux y aller. Puis c'est ça, l'excitation commençait à... assez intense.
Parce qu'il y a deux réalisateurs.
Il y a deux réalisateurs sur mon album, oui, c'est ça. En fait, j'ai réalisé les 4 premiers titres avec Siméon. On a fait ça dans un esprit de puriste. Donc, on est rentré en studio, dans un gros studio à Montréal, et puis on a engagé des musiciens. Et puis donc, mais budgétairement parlant, ça devenait des coûts assez faramineux.
Oui, puis le temps compte dans un studio. Là.
Et puis ce qui est, oui, c'est ça. Puis on enregistre toujours les instruments en premier, et puis la dernière journée, t'enregistres ta voix. Mais là, écoute, moi, j'étais brûlé la dernière journée, donc c'est quelque chose que je me suis dit, oh my God, il doit y avoir des façons de faire qui sont plus paisibles que ça. Puis finalement, Luc Tellier, celui-là qui a mixé et masterisé mon album, m'a mis en contact avec Michel Franqueur, qui lui est un excellent réalisateur. Il a réalisé Francis de Grandpré, Laurence Saint-Martin, Noir Silence à l'époque. Il a réalisé plein de monde, de Bobby Bazini. Et puis, il m'a mis en contact avec Michel Franqueur. Et puis, Michel, il a élaboré un plan de ce qu'on pourrait faire, de combien ça pourrait me coûter si je continue de travailler avec lui. Et puis, c'est ça. Donc, on est chanceux parce qu'on sauve tous les prix des musiciens, en fait, parce que Michel Franqueur est un multi-instrumentiste assez incroyable. Écoute, il tire à la guitare comme ça n'a pas de bon sens, puis c'est pas son premier instrument. Son premier instrument, c'est le drum. Fait que c'est ça, il joue de la basse, il joue de la mandoline, de l'harmonica. C'est lui qui joue tous les instruments pratiquement sur les 5 derniers titres de l'album.
Est-ce que tu le vis différemment, tout ça, que si c'était arrivé en 2005?
Clairement.
Évidemment, t'as pas le même âge, déjà, en partant.
Non, mais en 2005, moi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec mon adolescence, mais j'ai l'impression que je l'ai tiré jusqu'à 30 ans.
Moi, là, ça a été... À Star Academy, t'étais encore un ado?
Ah oui. Ah, mais tellement. J'avais rien vu, rien découvert. J'arrivais de l'Ouest canadien. J'avais pas d'attachement nulle part. J'avais pas d'obligation. Je me sentais dans un détachement total de ce qui pouvait arriver. Puis ça a été jusqu'à temps que j'ai mon garçon à mes 25 ans. Et ensuite de tout ça, je te dirais même que les deux premières années où est-ce que j'étais avec mon ex-conjointe, je suis pas sûr que je réalisais encore les responsabilités qui m'appartenaient. Puis c'est plus vers l'âge de 28, là, admettons, je te dirais, que là, j'ai commencé à me calmer, puis à réaliser, puis prendre conscience de qu'est-ce que je voulais faire, où est-ce que je voulais m'en aller. Parce que c'est ça, j'ai toujours été un peu bohème de ce côté-là. Je me suis dit, bon, tu sais, je ferai ce qui va venir, ce qui va m'arriver à moi. Tu sais, j'attends plus souvent qu'autrement que le téléphone sonne plutôt que de faire les appels. Donc, j'attendais qu'il y ait quelque chose qui me tombe dessus. Puis,
et que ça marche pas de même en musique.
Mais c'est ça qui est drôle, parce que dans d'autres domaines, ça marche comme ça.
Ah oui, ben
dans
oui.
Plein d'autres domaines. Moi, écoute, quand est arrivé le temps d'être comédien, le téléphone a sonné. Moi, quand est arrivé le temps d'être mannequin, le téléphone a sonné. Quand est arrivé le temps d'être animateur au 281, le téléphone a sonné. Mais je suis très chanceux, là. Je sais que c'est pas comme ça arrive pas à tout le monde. Mais mais c'est ça. Je suis quelqu'un qui attend plus souvent que le téléphone sonne.
Est-ce que c'était fini à jamais pour toi, la musique?
Non. La musique continue toujours de garder un espace super important dans nos vies, peu importe qu'on en fasse encore ou pas. Souvent, il y a des gens qui me disent lâche pas, tu sais, ou continue, en tout cas, arrête pas de faire de la musique. Puis je fais comme, tu sais, c'est impossible que j'arrête de faire de la musique. Ça se peut que j'arrête d'essayer de vouloir la promouvoir à grande échelle, de vouloir investir. Ça se peut que j'arrête de vouloir être chansonnier pour aller la jouer en live à travers le Québec. Mais jamais je vais arrêter de faire de la musique. Il n'y a rien de plus intéressant que de se faire un petit feu l'été puis de sortir les guitares autour du feu puis chanter des tunes.
C'est ton père qui t'avait dit que ça te prenait un plan B. Absolument. Ça a donné une tune, d'ailleurs.
Ouais.
Est-ce qu'à un moment donné, quand ça n'a pas fonctionné comme tu voulais la musique, est-ce que tu t'es dit, ben, il avait raison?
Malheureusement, avec les années, j'ai été forcé de lui donner raison. Puis, pendant un certain temps. Et ensuite, le vent a retourné. Quand il y a eu la sortie de l'album, là, à ce moment-là, avant la sortie de l'album, quand il y a eu la sortie du premier single, en fait, le vent a tourné. Et puis, parce que là, j'étais retombé comme... en fait, je l'avais écouté. Mon père m'avait toujours conseillé de rentrer... Il dit, tu devrais aller sur la construction. Sur la construction, ils ont des bons jobs, t'as une bonne retraite, t'as un bon
salaire, des vacances,
tout ça. Puis moi, j'étais comme, mon Dieu, que ça me parlait pas tant que ça. Puis, justement, après la pandémie, quand je me cherchais, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire, je suis allé travailler sur la construction. Et j'ai travaillé comme vitrier pendant 3 mois et demi. les 3 mois et demi que j'ai le pas le plus détesté de ma vie, là, mais pas loin.
C'était alimentaire, finalement. C'était une job alimentaire. Ouais.
Puis, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai lâché cette job-là, la personne qui m'en a parlé le plus, c'est mon garçon, qui me dit à quel point qu'il était content que j'aie mis ça de côté parce qu'il trouvait que j'avais pas l'air heureux.
Waouh!
Fait que c'était ouais. Puis, j'étais comme, OK, cool. T'sais, même lui, il s'en rendait compte à quelque part. Mais c'est ça, je partais tôt le matin, je rentrais tard, j'étais fatigué.
Ouais.
J'étais pas moi-même. En tout cas, chapeau à toutes les gens qui travaillent du 40 heures semaine, que ce soit sur la construction, que ce soit dans les hôpitaux ou à l'école ou encore. Moi, c'est quelque chose que my God, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là.
Quand tu as commencé à embarquer sur le projet, à écrire tes chansons, à travailler là-dessus, est-ce que ça sortait naturellement parce que 40 ans de vie, plein d'affaires, il y a du vécu, là, il y a plein de sujets qui popent dans la tête, puis ça sort?
Ouais, je pense que ça a été facile un peu, le premier album, parce que justement, j'avais ben de la matière. Je pouvais raconter n'importe quoi, je pouvais dire ce que je voulais, je pouvais...
Tu as pigé dans l'époque que tu voulais de ta vie.
Que je voulais, il y avait plein de choses qui s'ouvraient, j'avais plein de petites anecdotes, des moments que je me disais, mon Dieu, ça, j'ai des moments forts, que quand tu as un flashback de quelque chose, tu as un souvenir, tu as une image en tête, tu serais juste à décrire l'image, qui, quoi, quand, où, puis après ça, le texte part assez rapidement. Puis là, tu vois...
Un deuxième, c'est autre chose.
Hey, ma mère m'a dit quelque chose à la sortie de mon album. Puis elle m'a dit, OK, mais là, maintenant, tu vas écrire quoi, David?
T'as tout dit.
Puis là, même que j'y ai demandé, je l'ai rappelé, puis j'ai dit, maman, tu pourrais-tu me dire que je vais trouver quelque chose? Parce que là, j'ai l'impression que le fait que tu me demandes... En tout cas, ça jouait beaucoup contre moi. J'étais comme, je me demandais si... Ça me portait-tu malchance, cette histoire-là? Mais finalement, je me suis remis à l'écriture et ça va. Ça va très bien. il va y avoir un deuxième album, c'est sûr, là même que j'essaie de travailler des titres là, pour peut-être des singles qui vont sortir avant.
Parce que là, la machine est partie. Là.
Ouais, ouais.
Elle a été mise de côté longtemps, mais là, le déclencheur est là.
Là, je peux pas être plus dedans que présentement. Tu vois, là, cette semaine, les spectacles pour l'été ont rentré. Fait que j'ai booké 7 spectacles. Il y en a d'autres qui sont en attente de confirmation. Là, tu vois, on sortait notre vidéoclip, moi et Ariane Laniel, aujourd'hui. Puis après ça, là, j'avais l'entrevue ici. Ensuite de ça, j'en ai une autre demain avec Ariane. Et puis là, c'est ça. Je sens que le vent change puis que le vent pousse. Fait que je vais hisser la grand voile pour suivre.
De savoir qu'il y a un album qui existe, t'es un papa, de savoir qu'il y a quelque chose de tangible, que ces chansons-là vont perdurer dans le temps, que ça va être toujours là, est-ce qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, de dire, il y aura toujours une trace de papa?
Ben écoute, moi je me suis dit qu'au moins il y aura ça, tu sais, qui va perdurer après mon décès, si j'ai pas grand-chose à léguer. Financièrement, il restera au moins...
C'est là qu'est allé l'argent. Écoutez les tonnes.
C'est ça. Bonne écoute. Ouais.
Est-ce que le temps entre Star Academy et cet album-là, ça fait du bien parce que tu peux te détacher de l'image qui est restée de Star Academy? Parce qu'évidemment, c'est peut-être involontaire, mais on est cantonné dans un style quand on fait Star Academy, puis c'est peut-être pas nécessairement ce qu'on a envie de faire, mais ça marche, fait qu'on va là.
Ouais, c'est un peu le double tranchant des téléréalités puis des trucs comme ça là. Star Academy, justement, effectivement, les gens ils sont tellement quand ça passe à la télévision. Les gens sont tellement imprégnés de tout ça que c'est difficile de faire des changements après. Tu sais, l'autre jour, j'en parlais justement avec Jérôme Couture. Puis on parlait de Hugo Saint-Cyr qui s'est jamais remis tout à fait vraiment de son rôle pendant des années dans Watatata. Fait qu'on dirait que quand ils nous voient dans quelque chose, même, tu sais, Ludivine Redding, des fois, les gens ont de la misère à l'avoir dans d'autres choses que son rôle de Fanny dans Fugueuse. Fait que c'est ça, la télé marque beaucoup les gens. Fait que c'est sûr que c'est difficile, je pense, si t'arrives pour sortir quelque chose un an après ou 6 mois plus après, les gens, ils s'attendent à ce que tu fasses un certain style, je pense.
Puis t'as presque envie de faire ça parce qu'il y a un intérêt, puis tu veux que ça marche.
Oui, mais c'est ça qui arrive aussi, hein.
Tu vas faire plaisir au monde aussi.
Mais, ouais, mais c'est ça, je trouve que les artistes, on est vraiment comme ça. Moi, je me dis... Ah, des fois, j'ai...
Ouais, mais on a besoin d'être aimé, les artistes, ben, on a besoin d'être aimé. Ouais,
c'est
ouais.
Ça, on a besoin d'être aimé à un point qu'on est prêt à faire ce qu'on n'aime pas
pour ça.
Que ça fonctionne. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est assez drôle parce que ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Ben, à l'inverse, si on fait ce qu'on aime, ça va transparaître, puis les gens vont... Tu sais, il y aura rien de fake. Les gens vont c'est embarquer ça. Dans la proposition.
Je suis d'accord avec
toi. Après, on aime ou on n'aime pas, là, c'est chacun ses goûts, mais ouais. Reste que si c'est authentique, on va embarquer, là.
C'est vrai. J'ai pas le choix d'être d'accord avec toi, mais j'ai l'impression, tu vois, comme... ben Jérôme Couture, encore une fois.
Oh, oui.
Bon, Jérôme, les oreilles doivent lui sceller aujourd'hui, parce que je parle beaucoup de lui, justement, qui lui était cantonné justement dans un style.
Oh, oui, dans puis, ses
c'est
oui.
Ça. Puis à un moment donné, il était comme, OK, je veux me défaire de tout ça. Puis là, ben justement, quand il a décidé de changer son nom pour changer son style, parce que tu peux pas chanter de l'anglais en t'appelant Jérôme Couture. Tu sais,
non.
C'est beaucoup moins. Ça fonctionne moins. Puis, fait quand il a changé pour Jay Kutcher, il s'est fait descendre un petit peu au début, puis mon Dieu, tu fais... En tout cas, donc c'est ça. J'ai l'impression que oui, ça peut nous cantonner un peu dans un coin. Est-ce que le temps qui passe peut pallier la chose? Certainement. C'est sûr que moi, en sortant mon album 20 ans plus tard, les gens s'en rappellent plus ce que je chantais à Star Academy.
Un peu quand même.
Je faisais du français, là.
Oui.
Je trippais beaucoup sur les Français de France.
Est-ce que c'est compliqué de trouver quel son on veut quand c'est 20 ans plus tard puis tu faisais du chansonnier un peu mais t'écrivais pas de tout, donc de dire OK ben c'est quoi David Tremblay à 40 ans, je veux que ça sonne comment, c'est quoi la musique que j'écoute?
C'était super facile. Moi je trippais full c'est Cowboy.
OK.
Que je voulais qu'il
en même temps c'est là. Se mettre la barre haute un c'est, peu. Là.
Ouais, ben, je n'ai aucune appréhension à côté de loin les textes.
Mais il y avait cet univers-là, en tout cas, qui te parlait. Mais il y a cet univers-là, ouais.
Parce que c'est un petit peu du les Cowboys fringants, veulent pas, c'est comme du punk rock un petit peu qu'ils ont mis en guitare acoustique. Là. C'est très rapide, c'est très avec un train beat là, qui est en continu. Donc moi, il y avait ce côté-là qui m'intéressait beaucoup, j'adorais ça. Puis ensuite de ça, ben, avec la venue du New Country, qui est arrivé en même temps dans les radios. Moi, j'ai commencé à triper sur Zach Bryan qui fait aussi, qui faisait vraiment un peu ce que les Cowboys font, mais en anglais, mais un fait tout ça. Puis là, j'ai commencé à découvrir cet univers-là du New Country il y a pas si longtemps. Ça fait peut-être 3 ans, tu sais, que j'apprécie comme il faut. Là.
Ça a explosé pas mal aussi dans ces années-là. Là,
ça,
ouais.
J'imagine,
on y avait moins accès.
C'est ça, on avait juste pas le country, mais on dit le western ici.
Oui,
c'est ça. Donc, le western, ça m'intéressait moins. Puis, on n'avait pas de bon country. Puis, les Cowboys fringants représentaient pour moi ce qui était le country qui était écoutable. Là, ça brasse. Ça, j'aimais bien ça. Fait que ça n'a pas été si difficile que ça de me trouver un style. Ça a été plus de trouver les bons acteurs qui prennent leur rôle, je te dirais, à travers ça. Là. Ça a été plus difficile de mettre en place les bonnes personnes aux bons endroits, parce que on a toujours, on a des amis, on veut plaire à tout le monde, encore une fois, fait que des fois, tu te ramasses avec des gens que, c'est ça, c'est pas nécessairement les meilleures personnes pour être à cet endroit-là, mais tu peux les déplacer puis les mettre ailleurs, puis
ils sont très bons.
Ils sont très, très, très bons.
C'est un projet assez personnel, tu te livres beaucoup sur ce disque-là. Est-ce qu'à un certain moment, t'as dit, oh, je me livre vraiment beaucoup, puis est-ce qu'il y a eu un vertige qui est arrivé?
Ben, je pense que... Ben, écoute, ça me dérangeait pas. En fait, j'étais comme un peu prêt à tout, là, rendu là. Ouais, je pense que j'étais rendu... Puis, de toute façon, tu voulais que j'écrive sur quoi d'autre que sur moi-même.
Ben non, c'est sûr.
Moi, là, tu sais, justement, tu sais, je regarde juste les textes à Jean-François Posé, qui est le guitariste des Cowboys fringants, et je suis incapable, là. C'est impossible de faire un texte pour moi qui soit autant, tu sais, politique... qui a une morale à l'intérieur. Ouais,
dénonciateur.
Dénonciateur, sensé. Tu sais, tout ça, là, je me suis dit, OK, moi, je vais y aller avec ce que je connais, ma petite personne, mes histoires, mes... Tu sais, fait que là, je me suis dit, là, je me trompe pas parce que je peux pas écrire à côté, c'est moi.
Ouais.
Fait que, c'est ça.
Mais est-ce qu'il y a des tunes qui sont difficiles à chanter? Moi, oui. Je suis à Studio 101. Ben alors, si jamais...
Oui, c'est parce que toi, tu... OK. Oui, la chanson pour mon garçon, si jamais, c'est une chanson qui...
Ça vient te chercher encore.
À toutes les fois. Puis je suis incapable de la faire sans que ça vienne me chercher. On dirait que, je sais pas, en la laissant respirer, elle a quelque chose qui vient vraiment me toucher. Mais en même temps, moi, depuis que j'ai eu un enfant, la champlure là, des fleurs est ouverte oui. à grand flot. Ouais, fait que je suis un broyeur de nature, là, premièrement. J'étais un hypersensible qui dit.
Voilà.
Oui, voilà. Donc.
S'il est là dans la salle, est-ce que c'est pire? J'imagine que oui.
Eh, si bon, ben j'ai pas encore.
C'est pas arrivé, ok.
Parce que j'ai fait mon lancement dans un bar 18 ans et plus, puis souvent on est à l'extérieur, donc il est pas là. Mais j'ai tellement hâte de vivre cette expérience-là, qu'il soit là, puis qu'il voit la réaction des gens, parce que souvent, vu que la chanson. Pas des tonnes des autres, mais plus
malade. Ouais,
ouais. Donc, la réaction des gens est complètement différente de ce que je fais pour les autres chansons. Quand je fais des chansons comme Plan B ou Mon Vieux Ford, on est là pour s'amuser. Quand j'arrive avec un sujet plus sérieux, puis personnel à ce niveau-là, c'est sûr que là, la réaction des gens est très grande. J'ai eu plusieurs réponses là, par rapport au spectacle qu'on a fait ensemble à Sorel. C'est comment où est-ce qu'on était? C'était le
Centre de services municipaux de Saint-Anne-de-Sorel.
Voilà. Et puis j'ai eu des gens qui m'ont réécrit après pour me dire à quel point ils avaient apprécié cette chanson là. Fait que tu vois, à chaque fois je trouve que c'est une bonne à donner, puis il y a un retour immédiat.
Le soir du lancement, est-ce que tu t'es dit pourquoi j'ai attendu aussi longtemps?
Oh my god, le soir du lancement, non, pas le soir du lancement. Le soir du lendemain, j'étais dans ma tête ailleurs. Sinon, le lendemain, j'ai dit, Colin, j'aurais pu faire ça il y a des années. Puis surtout, j'ai des amis qui me l'ont renoté aussi, là, qui m'ont dit, voyons David.
Pourquoi t'as fait ça?
À quel point, pourquoi t'as attendu si longtemps? T'aurais pu nous sortir des chansons bien avant. Puis je me disais, bon, mais écoute, c'était juste pas mon temps, je pense.
Parce que au départ, c'était le punk, toi. T'avais pas un band punk avec ton frère?
Et je trippe encore sur le punk. C'est encore ça que j'écoute quand je m'en fais du...
Le même punk ou du punk de maintenant? Es-tu encore dans le vieux punk que t'écoutais à 14 ans?
Je trippe encore sur le vieux punk. Les vieilles tunes. Mais je pense que c'est comme ça, hein. Tu sais, comme toi, j'imagine que t'écoutes encore...
Ben, la musique de ma jeunesse.
Ben voilà, c'est ça. CCR, puis...
Pas si vieux que ça.
Ben moi, j'en écoute du CCR.
Ben, moi aussi, là, c'est pas la musique de ma jeunesse.
Mais ouais, j'ai beaucoup. Ouais, je trippe bien gros sur le punk. Puis j'écoute encore mes playlists. J'allais dire mes vieux CD. Mais non, j'écoute encore mes tunes de Green Day, de Blink 182. Puis c'est ça, je trippe bien gros.
En joues-tu encore, juste pour le fun?
Non, mais c'est vraiment dans ma façon de composer. Je pense que ça. Je compose toujours avec un petit peu punk, puis à chaque fois qu'on arrive en studio, ils me font comme ok, on va te redescendre ça un petit peu. Fait que, puis là, on revire ça plus.
Mais ça vient naturellement comme ça parce que c'est ça que tu as toujours écouté.
C'est tout le temps ça que j'ai écouté, puis c'est ça que c'est toujours ça que j'ai composé, surtout là. Dans tous mes groupes que j'ai eus, c'est ça, je composais, puis. Parce que j'ai eu des groupes là, qui ont fonctionné un peu, le code d'éthique là, à l'époque. Ça fonctionnait fort, ça, au Saguenay. Là. J'ai composé des tunes pour eux autres, moi, puis c'est ça. Mais c'est mon frère qui a continué.
Ben, c'est un peu lui qui t'a amené là-dedans,
c'est
non?
C'est lui qui m'a amené là-dedans, sévèrement. Il m'a poussé là.
La guitare t'arrivait à 10 ans?
Oui, oui.
Cadeau de fête?
Cadeau de Noël, ouais. Noël, je pense.
OK. Ouais. Puis après, le frérot s'en est mêlé.
Moi, j'avais reçu... Bon, si mon frère m'écoute, cette année-là, moi, j'ai reçu une guitare. Lui, il a reçu des gants de hockey.
Et c'était lui le musicien?
C'est pas un sportif.
C'est un musicien?
Ouais. Okay. Mais à ce moment-là, il jouait moins de musique, là. Mais reste que, tu sais, la guitare est rentrée dans la maison. Elle a traîné là. Puis tu sais comment ça fait une guitare dans une maison qui traîne là. Tu passes à côté. Oh, une petite note. Ah, je vais essayer. Ouais. Non. Puis à un moment donné, ça a piqué notre curiosité, t'sais.
Donc, les deux, vous aviez la même guitare?
Oui, sauf que mon frère était gaucher, donc c'était vraiment un pain in the ass.
Fait qu'il pouvait même pas jouer, ouais, c'est ça.
Mais tu sais quoi, maintenant, il joue droitier.
Parce qu'il a appris sur une guitare de droitier.
Ouais. Fait qu'il a vraiment persévéré très longtemps. Mon frère, c'est un fonceur né. C'est quelqu'un qui défonce des portes, là. Il tient à bout de bras deux bands saguenéens, en fait, qui s'appellent Crash Ton Rock et puis Brig.
Okay.
Donc, ça joue à Sirius, ça joue à la radio à Québec, je sais. Oh, ouais. Ils ont une radio un peu plus rare, oh, ouais, là-bas. Puis, je comprends pas comment il fait. Là. Premièrement, il faut que tu composes des chansons pour deux bands. Là. C'est oui, immense. Puis, deuxièmement, il faut que tu gères les horaires de répétition, les studios, toutes ces affaires-là. Eux autres, ils sont motivés. Là. Mais ils font pas ça pour les mêmes raisons. C'est ça. Fait que, mais ils défoncent des portes. Là. Puis lui, quand je suis allé au Saguenay faire des entrevues radio. Et puis, il m'a accompagné dans des entrevues radio. Puis, c'est très drôle à voir comment il prend possession de... Il rentre en studio, puis tu le sais qu'il est là. C'est pas un grand parleur, puis c'est ça. Mais c'est un grand, pas juste un grand parleur, là.
Un grand faiseur aussi.
Un grand faiseur aussi, exact.
Le voyage en Alberta que, oui, t'as fait, c'était une façon d'aller faire de la musique ailleurs, puis de dire j'y vais all-in aussi, en quelque part, de fuir un peu quelque chose, puis d'y aller all-in.
Le voyage en Alberta, c'était vraiment une façon, premièrement, de fuir ce qui se passait ici, au Québec, là, à Jonquière, plus précisément. J'avais perdu mon emploi, je savais pas trop quoi faire. J'avais fait Star Academy, l'audition seulement, et puis il y avait passé les pubs de Star Academy à la télévision. Et vu que le Saguenay, c'est très très petit, on a commencé à m'appeler « Hey, Star Academy », puis... Je trouvais que le monde était intense avec ça pas mal. Fait que ça m'avait comme... Ça m'avait rebuté un peu. Je voulais plus le faire. J'étais comme, ah non, si le monde m'écœure avec ça déjà, puis je l'ai même pas fait. Je suis juste dans la pub. J'étais comme, fuck off. Puis j'ai eu un ami qui m'a dit qu'il partait, lui, pour un voyage, tout simplement, pour l'été. Il voulait aller faire... il voulait aller travailler en Alberta un petit peu, faire... tu sais ça, là, backpacking.
Oh, ouais.
Fait que finalement, ça m'a beaucoup parlé, moi. Puis j'ai fait, OK, c'est ma porte de sortie.
Un signe, ouais.
Moi, c'est ma porte de sortie. Puis je suis parti là-bas, puis je suis pas parti pour faire de la musique, mais je suis parti comme si, parce que j'avais juste une guitare. Moi, je suis parti avec un sac à dos, j'avais des vêtements dans mon sac à dos, 40$ dans mes poches, ma guitare sur le dos, puis... C'est tout ce que j'avais. Écoute, puis quand je me suis rendu compte que ça prenait 3 jours pour me rendre jusqu'en Alberta en autobus, puis qu'on arrêtait seulement dans les Tim Hortons, je me suis dit, ah, j'étais un petit peu dans la merde parce que je me rendais pas financièrement.
Oui, c'est ça, j'allais dire, le 40$ va être brûlé vite. Là.
Ben, c'est ça, la première arrête, Tim Hortons, ça me coûte 8$. À l'époque, c'était pas si cher. Puis finalement, j'ai fait, ah, tabarouette, prochain stop, je suis arrêté dans une épicerie. J'ai acheté pain, banane, beurre de peanut. J'ai mangé des toasts au beurre de peanut et banane pendant 2 jours et demi. Ce qui m'en a donné une petite écœurantite à la fin du voyage. Mais écoute, un des plus beaux voyages, là, quand je suis arrivé là-bas, tout de suite en arrivant là-bas, je voulais revenir chez nous. J'appelle ma mère parce que je me rendais compte que je pouvais pas trouver de job là-bas parce que ça prenait un police check. Une vérification, okay, policière pour pouvoir criminel, travailler. Ouais, moi, okay. Exactement. Puis ça coûtait $50.
Que t'avais pas. Fait que
je sautais déjà mon budget. Fait que non. Puis là, ben finalement, écoute, on est allé au terminus. Puis là, j'appelle ma mère. Puis j'essaie d'avoir un billet pour venir. Puis qu'elle m'en paye un, puis etc. Puis c'était plus compliqué à l'époque parce que l'Internet n'était pas là aussi présente qu'aujourd'hui. Et puis finalement... on s'est assis, on a commencé à jouer de la guitare pendant que j'attendais de rappeler ma mère plus tard. Puis, en jouant de la guitare, il y a du monde qui se sont arrêtés. Il y a du monde qui se sont mis à me donner de l'argent parce que je racontais mon histoire un petit peu. Puis, je disais que je voulais retourner chez nous. Puis, fait que j'ai ramassé un petit peu de sous avec ça. Puis, un gars qui est arrivé, qui lui s'en allait plus loin. Il m'a payé le billet. Il m'a dit, viens-t'en dans la vallée de l'Okanagan. Tu vas voir, là-bas, il y en a de la job. T'as pas besoin de police, okay, rien. Il m'a payé mon billet d'autobus pour me rendre là-bas. On a fait un petit peu de pouce ensemble. Puis finalement, je suis arrivé dans la vallée de l'Okanagan et j'ai trouvé une job. Ils m'ont fourni une tente, un sleeping bag, tout. Parce que j'avais rien, rien. Je suis parti vraiment comme un... C'est ça. Mais tu sais, mon adolescence, je te disais, là, ça s'est perduré sur longtemps. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle comme la première fois que j'ai eu mon enfant puis que je suis parti avec lui là, puis je suis parti pas de sac à couche, tu sais, puis
il y a un essentiel à un moment donné.
Ça serait un minimum de pouvoir le changer.
David, les shows qui s'en viennent cet été, ça va être annoncé sur ton site,
j'imagine. Sur mon site internet, là parce que là on a plein de shows confirmés. Il y en a plein qui veulent pas qu'on dise la date. Là,
parce qu'il y a des conférences qui vont annoncer les programmations.
En tout cas, ça m'écœure.
Mais on va te suivre là-dessus.
Moi, je suis bien trop excité. J'écrirais ça puis je crierais ça à tue-tête sur les toits. Mais oui, ça va être annoncé sur mon site internet, davidtremblay.com. Et puis sinon, sur mes plateformes de réseaux sociaux, là, David Tremblay Musique, vous allez pas mal trouver tout ce que vous avez à voir là-dessus. Puis... c'est ça, des spectacles de différents formats, parce qu'on a des spectacles en trio, spectacles en duo, on va en faire un à Longueuil, là, maintenant, là-dedans, puis là, on a aussi des spectacles full band, pour la Saint-Jean, mais là, je dirais pas où, mais ouais, on va avoir une super de belle Saint-Jean, on a booké des beaux shows, je suis vraiment content, et c'est plus payant que chansonnier. Finalement, ça me fait plaisir quand même un peu de me dire que je vais revenir avec un peu d'argent dans mes poches.
Oui, oui. Et
oui, c'est ça. T'sais, quand puis, tu reviens en dessous, c'est plat.
Puis un autre album l'année prochaine? Est-ce que c'est ça le plan?
Je vais essayer de faire un an et demi dessus, mettons. Mettons que je fais un an et demi, puis ouais. Ouais, après un an et demi, je vais être dû pour un autre. Là.
OK.
Ouais, je vais le rouler pour l'été, au moins. Parce que là, il est sorti en novembre.
Oui.
Si j'en sors un autre en novembre, c'est trop tôt.
Oui, oui.
Le monde n'aura pas fini.
Non.
Ils n'auront pas fini de l'écouter.
C'est ça.
Fait qu'un an et demi, là, je me dis peut-être en 2026.
OK.
Ouais.
David, merci.
Ben là, ça me fait plaisir, Luc.
Toujours un plaisir.
Pareillement.